Comment l'imitation peut-elle être créatrice? Dans un texte fondateur de toute l'esthétique occidentale, dans sa poétique, Aristote définit l'art d'une manière très paradoxale par l'acte de l'imitation. Mais contrairement à Platon qui avait défini l'imitation comme un geste secondaire, comme une production qui se limite à une reproduction, comme une copie par rapport à un modèle, Aristote tout à coup renverse en quelque sorte le sens de l'imitation et ouvre une sorte de tension dans l'histoire de non seulement de l'esthétique, mais de la philosophie et peut-être de la compréhension de l'être humain en faisant de l'imitation un acte profondément créateur. Et non seulement un acte créateur au sens où il y aurait quelque chose comme une divergence par rapport au modèle, une petite différence, comme un copieur qui rajoute quelque chose pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs à son modèle, qui peut même rajouter une erreur créatrice, comme dans le vivant, dans l'ADN lui-même, qui se copie de manière différenciée. Et c'est ce qui fait qu'un programme génétique n'est jamais seulement une répétition du même, mais produit de la différence. Non seulement donc des petites différences qui peuvent expliquer aussi le rire que procure chez nous le comique ou le mime en imitant un modèle, et il faudra y revenir, non. Pour Aristote, le phénomène de l'imitation est beaucoup plus créateur que cela. Ce n'est pas seulement créateur de petites différences. Si Aristote définit toute la poétique, tout l'art créateur, poiesis veut dire créer quelque chose de nouveau, paradoxalement par la mimésis, qui semble être un acte secondaire, un acte de redoublement ou de reproduction, c'est parce qu'il assigne à l'imitation, chez les êtres humains, une fonction de création non seulement de différences, mais de connaissances. La mimésis est pour Aristote cette capacité chez les êtres humains d'extraire d'un phénomène qu'ils observent quelque chose comme une essence commune à d'autres phénomènes. Ainsi, le poète tragique n'est pas en train de répéter, de reproduire l'histoire, par exemple, d'Antigone dans la tragédie de Sophocle. S'il imite le drame qui s'est produit, c'est pour en dégager quelque chose d'essentiel. L'imitation chez les êtres humains ne peut être un plaisir, ne peut avoir un but, ne peut être inscrite dans notre nature que si elle correspond au but principal de notre nature, qui est de connaître les choses. Le bonheur, pour Aristote, dépendant des parties supérieures de l'âme, la partie supérieure de l'âme humaine étant définie par la connaissance. Ainsi, si Aristote ouvre la poétique par ce simple constat, les hommes prennent plaisir à imiter, prennent plaisir à l'imitation, c'est bien pour le rapporter à ce qu'il y a de plus haut dans la nature humaine, et non pas seulement à ce qu'il y a de secondaire ou de minimal, comme Platon le critiquait, pour critiquer aussi les artistes et les poètes en général. Non, imiter chez les êtres humains est un plaisir parce que nous cherchons dans l'imitation le cœur du phénomène, parce que nous cherchons à comprendre l'essence, par exemple, des drames humains. Ainsi, l'imitation devient alors aussi un travail critique. Quand Sophocle cherche à reproduire ou à nous raconter l'histoire du drame tragique, c'est pour nous instruire. L'imitation devient un pouvoir de création qui va travailler tout l'art occidental. Un grand philosophe et critique littéraire y a travaillé pendant la période du nazisme. C'est Eric Auerbach dans un grand livre, Mimésis. Mimésis pour nous protéger du pire et pour nous apprendre à connaître même le pire par l'art des êtres humains.